réponse sur votre question. C'est très bien. Je crois avoir compris. En fait, ben, on a un peu exposé ça. C'est que le billet... Non, mais c'est très bien. Je vous assure que même ceux qui l'ont déjà entendu veulent le réentendre. Le billet de la réalisation de ce projet, c'est la nation d'Israël. Or, une nation est sur sa terre. C'est-à-dire, pendant 2000 ans à peu près, nous avons été empêchés de réussir. Nous nous sommes repliés sur nous-mêmes, le processus de la guéthéoïsation, si vous voulez, qui fait que les Juifs, jusqu'à ce jour d'ailleurs, ont une certaine réticence par rapport à l'extérieur, une certaine crainte. Nous nous sommes rendus compte, et pour un peuple persécuté en exil, vous comprenez que c'est très important, qu'à chaque fois que des non-Juifs se sont intéressés à nous, il y a eu des catastrophes. Et ce n'est pas que le projet universel n'existait pas, il a continué à être porté dans les cœurs des Hébreux, mais il n'avait pas le substrat qui lui permettait de s'exprimer. Je voudrais à ce propos vous citer un texte d'un philosophe francophone, il s'appelait Jean-Jacques Rousseau, c'est ça, hein, oui, un Genevois, qui disait, c'est pas loin d'ici je crois, n'est-ce pas Genève, enfin, relativement, Jean-Jacques Rousseau qui disait dans les Mille, qu'en Sorbonne, à l'époque la Sorbonne était une université catholique, enfin religieuse, il disait, en Sorbonne, il ne fait aucun doute que les prophéties d'Isaïe concernant le Messie parlent de Jésus. Pour les rabbins d'Amsterdam, c'est les rabbins dont il avait entendu parler, il ne fait aucun doute que ces prophéties n'ont rien à y voir. Et donc, je pense, dit Jean-Jacques Rousseau, que je ne comprendrai les Juifs que lorsqu'ils auront un État à eux, des universités et des écoles où ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Je pense que c'est très net. D'accord ? Et donc il y a eu cette attente, effectivement. Donc le temps est venu. Le temps est venu, donc pouvons en parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives antérieures. Je voudrais rappeler que à l'aube du christianisme, il y avait une sorte de prosélytisme, non pas pour judaïser l'humanité, mais il y avait un prosélytisme dans tout l'Empire romain, qui fait que dans les synagogues de tout l'Empire romain, il y avait une partie réservée aux non-juifs, qui venaient écouter les paroles des maîtres, qui venaient prier avec les juifs. Et ce sont ces communautés-là qui ont permis après la diffusion du christianisme. Parce que le christianisme se proposait effectivement comme une sorte de noachisme au départ. Vous avez qu'à lire d'ailleurs dans les épîtres de Paul, vous voyez que c'était un peu ça auquel il pensait au départ. Après, ça a été dévié pour une raison très simple. C'est quand il y a eu l'affirmation de la communauté chrétienne qu'elle venait remplacer le canal d'Israël. C'est-à-dire, de notre point de vue, c'était se substituer à nous comme étant la voie de la révélation. Et donc il y a eu ce que appelait Abraham Livni, il appelait ça une formule un peu forte, l'étouffement de la prophétie. C'est la parole n'a pas été entendue, elle a été occultée. Vous savez que dans les cathédrales avant, on représentait la synagogue comme étant une vierge au bandeau, qui avait un bandeau sur les yeux. Et quand on met un bandeau sur les yeux de quelqu'un, eh bien ça empêche de le voir. Et aujourd'hui, on peut enlever le bandeau. Donc, on peut effectivement parler. Alors, donc, il y a eu cette tentative, effectivement, la tentative, ce qu'on appelait à l'époque les Yirei Hashem, il y a des études qui ont été faites d'ailleurs par des universitaires là-dessus, sur la diffusion du message d'Israël dans l'Empire romain à la veille de l'apparition du christianisme. Il y a eu également le christianisme lui-même. Et puis, il y a eu après l'islam. Il y a eu, à une époque beaucoup plus proche de la nôtre, une tentative, dont vous avez peut-être entendu parler, celle d'un rabbin de Livourne. D'un rabbin de Livourne, qui était un kabbaliste, un grand maître du judaïsme, également un dayan, le rabbin Elia Ben Amozeg, rabbin d'origine marocaine, qui siégeait à Livourne, et qui un jour a reçu la visite d'un Français de Lyon, du nom de... C'est pas loin d'ici non plus, hein, je crois. Du nom de Aimé Pallière. Cet Aimé Pallière, qui était un homme avec une recherche spirituelle authentique, était d'origine catholique, et après avoir eu une expérience religieuse lors d'un jour de Kippour, en étant rentré par hasard dans une synagogue, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour rentrer par hasard dans une synagogue un jour de Kippour, mais enfin ça lui est arrivé. Au moment de la dernière prière, la Nehila, qui est une apothéose, il a été frappé par ce qu'il a vu, et ça l'a bouleversé. Il a décidé donc de se convertir au judaïsme, et un rabbin français l'a refusé. Il est allé en Italie pour rencontrer ce maître, le rabbin Benamozek, qui lui a dit « Je ne veux pas vous convertir, vous allez devenir le grand prêtre du noachisme. Vous allez refonder cette religion oubliée, etc. » Bon, pour tout vous dire, ça a été un échec total. C'est-à-dire que Aimé Pallière n'a pas vraiment suivi les instructions de son maître. Il a quand même publié de manière un peu abrégée, peut-être un peu déformée, les écrits de son maître, le livre « Israël et l'humanité ». Et il est devenu, si vous voulez, une sorte de prêche dans la synagogue libérale de Paris, dans laquelle il expliquait aux Juifs qu'ils devaient respecter le Shabbat. C'est à peu près ça qui s'est passé. Lorsqu'il était mourant, il a fait appeler un prêtre et un rabbin. Il a été enterré dans un cimetière catholique, mais on a dit le Kaddish sur sa tombe. Enfin, bref, il n'était ni là, ni là-bas. Et bien qu'il y a eu quand même un certain retentissement à son initiative, il y a eu quelques suites, mais enfin, disons de manière générale, cette tentative intéressante a échoué, à mon avis, parce qu'elle n'était pas justement branchée sur le moment du retour. Il y a de nos jours une œuvre intéressante qui a été écrite par un philosophe français d'origine catholique qui s'appelait Albert Blanc, qui par la suite s'est converti au judaïsme et est devenu Abraham Livni. Un livre important qu'il a écrit du nom du « Le retour d'Israël et l'espérance du monde ». Alors, peut-être que vous avez entendu parler de ce livre, c'est un livre que je vous recommande, publié aux éditions du Rocher, à Monaco. Tiens, c'est pas loin d'ici, encore plus proche, n'est-ce pas? Bientôt, on va arriver à Nice.
Oui, je crois que le livre est là.
Ah, la Sifrière, on l'a? Ah, d'accord, c'est bon. Ce livre, d'ailleurs, a été traduit en hébreu par votre serviteur. Ah oui, je l'ai traduit en hébreu. Oui, il s'appelle Shivat Zion Eslamim. D'accord. Mais ici, il n'y a pas d'acheteur pour la version hébraïque. Non,
c'est ça. Quand on parle de la version française.
Oui. Et je voudrais
aux enchères, il n'y en a qu'un seul.
Comment?
Aux enchères, il n'y en a qu'un seul.
Il n'y en a qu'un seul, d'accord. Bon, je voudrais quand même vous raconter une des réactions. Ce livre a causé beaucoup de réactions dans le monde à l'époque. C'était il y a quelque chose comme il y a 20 ans, 25 ans que ce livre a été publié. À l'époque, ce livre a amené énormément de réactions, aussi bien chez des juifs que des non-juifs. Et je me rappelle d'une lettre qu'Abraham Livni avait reçue d'une chrétienne qui avait lu le livre, dans lequel il y a une critique assez violente du christianisme, et dans laquelle elle lui dit, je vais vous dire pourquoi je vous raconte cette histoire, et elle a dit, j'ai lu tout ce que vous avez écrit, et je suis entièrement d'accord, vous avez totalement raison, et pourtant, malgré tout, je reste chrétienne. Et ce n'est pas, à mon avis, par malhonnêteté intellectuelle. C'est parce qu'il y a quelque chose de très très fort dans les diversités spirituelles. C'est-à-dire, être chrétien ne veut pas dire forcément l'adhésion au dogme tel qu'il est transmis dans l'Église. Enfin, ce n'est pas mon affaire de me mêler des affaires intérieures du christianisme. Mais il y a souvent, si vous voulez, quand on essaie de prouver à quelqu'un qu'il a tort, en général, on a tort de lui prouver qu'il a tort. Pour raison très simple, c'est que quand on prouve à quelqu'un qu'il a tort, il ressent instinctivement, sans savoir pourquoi, qu'il a quand même raison. Parce qu'il y a, dans chaque discours, il y a une parcelle authentique de vérité qui alimente l'erreur, si vous voulez. Et donc, si tu me dis en quoi j'ai tort, mais tu ne m'as pas dit en quoi j'ai raison. Donc, si vous voulez, la stratégie véritable des entretiens entre spiritualité, c'est de dire à l'autre en quoi est-ce qu'il a raison, et c'est alors qu'il comprendra qu'il avait tort de penser qu'il avait raison. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est bon d'éviter ce qu'on appelle la disputation, c'est-à-dire les conflits interconfessionnels. Pour tout vous dire, je ne suis pas non plus de la veine des rencontres interconfessionnelles. Les amitiés.